Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Dakar, 14h à Bujumbura, bienvenue à notre journal. Au Burundi, début ce mardi de la campagne pour le référendum constitutionnel du 17 mai, qui devrait permettre au président Pierre Nkurunziza de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Dans cette campagne, qui doit durer 14 jours, seule la propagande pour le oui ou le non est autorisée. Une peine de 1 à 3 ans de prison est prévue pour quiconque tentera de convaincre les électeurs de s'abstenir de voter, bien que le vote ne soit pas obligatoire dans le pays. Au total, 26 formations politiques, dont le CNDD-FDD au pouvoir et un grand nombre de partis proches, plus la coalition indépendante Amizero ya Burundi, Espoir des Burundais, ont le droit de faire campagne. L'opposition en exil, regroupée au sein de la coalition Sénared, a appelé la population à boycotter le référendum. Pour leur part, les quelques partis d'opposition encore présents au Burundi ont appelé à voter non, disant craindre les représailles du pouvoir en cas de boycott du scrutin. La Belgique annonce qu'elle n'est plus représentée par un ambassadeur en République démocratique du Congo après une série de tensions diplomatiques entre Bruxelles et Kinshasa dues à la crise politique en RDC. Le départ du dernier ambassadeur belge sur place est intervenu après la décision de Kinshasa de fermer la maison Schengen, sorte de consulat européen géré par la Belgique, qui instruit les demandes de visa pour 18 pays européens. Kinshasa l'avait fermé en réaction à la décision de la Belgique de redéployer son aide au développement vers des ONG pour protester contre la crise politique en RDC. Au Gabon, la Cour constitutionnelle a dissous l'Assemblée nationale et demandé la démission du gouvernement. La présidente de cette juridiction reproche aux autorités gabonaises de n'avoir pas organisé les élections législatives avant fin avril. Le point avec Raïssa Girondin.
La Cour précise que le mandat des députés a pris fin et que le chef de l'État doit procéder à la nomination d'un nouveau gouvernement. Madeleine Bourantsuo, présidente de la Haute Cour, précise que le gouvernement n'a pas pu accomplir ses missions, dont la révision de la liste électorale depuis 2017 et la mise en place du Centre gabonais des élections depuis janvier. Selon la Haute Cour, le gouvernement a surtout échoué dans l'organisation des législatives au plus tard le 30 avril, après deux reports depuis décembre 2016. Le Parlement gabonais est considéré comme illégitime depuis dimanche 29 mars. Les législatives n'ont pas été tenues dans les temps fixés. La Cour constitutionnelle a donc décidé de transférer les pouvoirs de l'Assemblée nationale au Sénat jusqu'à la proclamation des résultats des législatives. La date de ces législatives sera annoncée après saisie de la Cour par le Centre gabonais des élections, qui doit prêter serment demain mercredi. Le CGE, qui rassemble la mouvance présidentielle et l'opposition, vient remplacer la Commission électorale nationale autonome et permanente, ou CENAP, qui avait validé l'élection présidentielle contestée d'août 2016.
Au Cameroun, c'est l'escalade de la violence dans les régions anglophones. Un prêtre a été brièvement kidnappé hier alors que l'ONG International Crisis Group, le centre de recherche de solutions de crise, recommandait l'église pour faire la médiation. Plus de détails avec Morgane Guiriec.
À Bello, dans la région du Nord-Ouest, un prêtre catholique a été brièvement kidnappé hier. Ce serait la première fois que les séparatistes s'en prennent à un représentant de l'Église catholique. William Neba, proviseur d'un lycée aux alentours de Bello, a été enlevé hier, puis relâché. Conséquence, les parents d'élèves des établissements scolaires de la zone se sont précipités pour récupérer leurs enfants. Deux gendarmes ont été abattus samedi à Bali Nyonga. La veille, une enseignante enceinte a été tuée dans son école à Muyuki, dans le sud-ouest. Un autre enseignant a été tué à Kumba, dans la même région. Depuis fin 2017, au moins 33 cas d'assassinats de militaires et de policiers ont été imputés aux séparatistes. L'armée est souvent accusée de mise à sac des villages entiers et d'exécution sommaire, ce qu'elle dément. Face à l'escalade, le SDF, Social Democratic Front, principal parti d'opposition, estime qu'il y a désormais une guerre civile ouverte dans les régions anglophones.
Afrique de l'Ouest maintenant, Mali, la MINUSMA, la mission de l'ONU sur place, dénonce les violences contre les civils dans la région de Ménaka, près de la frontière du Niger, après de récentes attaques qui ont fait plus de 40 morts. Les attaques délibérées contre des civils qui ne prennent pas part directement aux hostilités peuvent être considérées comme des crimes de guerre, a déclaré à ce propos Mahamat Salih Anadif, chef de la MINUSMA. Procédé djihadiste à Dakar au Sénégal, un Sénégalais de 31 ans a reconnu lundi devant un tribunal de Dakar avoir reçu de l'argent de plusieurs membres du groupe État islamique et de Boko Haram. Mais le prévenu affirme qu'il ignorait leur appartenance aux deux groupes djihadistes. Le point avec Abdourahmane Dia.
C'est le premier procès de cette ampleur au Sénégal. 29 personnes, dont 3 femmes, sont poursuivies pour actes de terrorisme et complot pour réaliser des attentats. Il s'est ouvert le 9 avril et entre dans une phase décisive avec l'interrogatoire des deux principaux prévenus. Martar Djohane, alias Abu Anwar, a affirmé être allé au Nigeria pour enseigner le Coran. Selon lui, Mustapha Diop, un Sénégalais alors basé en Arabie Saoudite, devait lui payer 1 500 euros par mois et lui avait donné 65 000 euros avant son départ début 2015. Il a précisé qu'il ignorait que son contact était membre du groupe État islamique, comme le soutient la justice sénégalaise. Il a aussi reconnu avoir reçu 12 000 euros d'Aboubakar Shekau, le chef de Boko Haram, qu'il dit avoir rencontré pendant plusieurs heures. M. Djohane a été interpellé en novembre 2015 au Niger pour une affaire de fausse monnaie, puis remis au Sénégal. À Luindao, le principal prévenu, un imam connu de Kaolack dans le centre du Sénégal, doit être interrogé dans le courant de la semaine.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Relations États-Unis-Nigeria, après leur consultation dans le bureau ovale de la Maison-Blanche hier à Washington, le président américain Donald Trump et son homologue nigérian Muhammadu Buhari ont donné une conférence de presse conjointe. John Lyndon.
Le président Trump a d'abord remercié son homologue Buhari, disant qu'ils ont tellement de choses à faire ensemble, particulièrement en matière de lutte contre le terrorisme. Les deux hommes ont aussi discuté de commerce et d'équipement militaire. M. Trump a d'autre part rappelé qu'il y a le problème des chrétiens qui sont tués au Nigeria. De son côté, M. Buhari a bien sûr remercié son hôte en précisant que malheureusement, la sécurité a été le sujet principal de leur discussion. Il a remercié les États-Unis qui sont maintenant d'accord pour vendre des hélicoptères à Abuja et pour la présence militaire américaine pour des besoins de formation de l'armée nigériane, disant que son pays vit pleinement l'engagement des États-Unis contre le terrorisme. Sur la question des filles kidnappées au Nigeria avant son arrivée au pouvoir en 2014, le président Buhari a répondu que 80 d'entre elles ont été libérées. Pour celle de Dapchi, selon lui, 106 ont été kidnappées et 100 ont été retrouvées, 4 sont mortes et une est toujours en captivité. Le président nigérien a enfin remercié les Nations Unies pour leur rôle dans la libération de ses filles.
Dossier nucléaire iranien maintenant. Les accusations lancées lundi soir par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à propos du programme nucléaire de l'Iran sont l'œuvre d'un menteur invétéré et en panne d'idées. C'est ce qu'a affirmé ce mardi le ministère iranien des Affaires étrangères dans un communiqué. Rappelons que le chef du gouvernement israélien a déclaré hier qu'Israël disposait de nouvelles preuves concluantes d'un plan secret que l'Iran pourrait activer à tout moment pour se doter de la bombe atomique. Benjamin Netanyahou a fait ses révélations en direct devant les télévisions israéliennes sur la foi, dit-il, d'une formidable réussite dans le domaine du renseignement. Les détails avec Jean-Roger Bion.
La sortie de M. Netanyahou intervient au moment où la communauté internationale est suspendue à la décision de M. Trump, qui a fixé au 12 mai la date butoir pour choisir ou non de dénoncer l'accord entre Téhéran et les grandes puissances sur le nucléaire iranien. Le premier ministre israélien a essentiellement fourni des détails relatifs à un plan iranien ancien appelé Ahmad, visant à produire 5 têtes nucléaires. Selon lui, Israël peut à présent prouver que l'Iran stocke secrètement du matériel provenant du projet Ahmad pour s'en servir au moment de son choix et développer des armes nucléaires à grand renfort de documents ou de cartes diffusées sur un écran. M. Netanyahou a assuré que l'accord de 2015 reposait sur les mensonges iraniens et que l'Iran avait failli à ses obligations en ne faisant pas la lumière sur ses activités passées. Dans une première réaction, l'Iran, qui a toujours affirmé ne pas chercher à se doter de l'arme nucléaire, s'est moqué des pseudo-révélations de M. Netanyahou. Le président iranien Hassan Rouhani a souligné dimanche que son pays n'accepterait aucune restriction au-delà de ses engagements actuels. Le président américain Donald Trump s'est contenté d'estimer que la déclaration de M. Netanyahou était une bonne chose. Il a répété que l'accord passé en 2015 entre l'Iran et 6 grandes puissances internationales était horrible pour les États-Unis.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.